Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Salut à toutes et à tous. On est ravis de passer le week-end avec vous, comme d'habitude, de 9h à midi, en pleine Coupe du Monde sur RMC, la radio officielle du Mondial. On dédie cette émission, évidemment, à Éric Roy, qui a disparu cette semaine et à qui on pense très, très fort ce matin, à lui et ses proches. On sait que les obsèques auront lieu mardi à l'église Sainte-Réparate à Nice. Grosse pensée pour Éric Roy, qui est venu plusieurs fois ici au micro de RMC. Il faisait partie de la maison, toujours un mot sympa pour tout le monde. Lui en était une de grande gueule.
Une grande gueule et surtout un grand cœur et un garçon adorable. Moi, je l'ai connu quand on était tout jeune à Nice. Et c'est un gros vide aujourd'hui. Et les réactions du monde entier, du monde du sport et du monde du foot ont été dithyrambiques.
Évidemment, grosse pensée pour Éric Roy et à tous ses proches. Bonjour Christophe Cessieux.
Bonjour Georges.
Il a pris la voix tranquillement, qui est déjà avec son soda sans sucre pour se réveiller. Le matin, c'est sa façon de rentrer dans sa compétition, vous le savez.
C'est mon café.
C'est ton café. Voilà. Bonjour Sarah Pitkowski.
Bonjour à tous.
Je trempe même mes croissants dans mon coca.
Quelle horreur.
Ouais, quelle horreur.
Ouais. Ça va, Sarah?
Eh ben, écoute, très bien.
Passez une bonne semaine.
J'ai découvert un festival. Je pense que j'ai mis une fois les pieds, j'y mettrai pas deux.
Non?
Absolument.
C'est ça?
Je suis allée au Hellfest.
Non, mais Sarah, au Hellfest. Ah, mais je t'imagine pas du tout. T'es arrivée avec des trucs en clous et tout ça?
Bah, avec mon fils, on était un peu perdus.
Mais c'est où d'ailleurs le Hellfest? J'ai vu des images sur la
télé. Je suis arrivée tout en blanc. Ils sont tous habillés en noir.
Qu'est-ce que t'allais faire au Hellfest? Quelle est cette blanche colombe écartée?
Absolument.
Génial, on adore. D'ailleurs, en fait, tout ça t'en évidemment, avec la canicule et tout, il faut bien s'hydrater, il faut s'habiller en blanc, comme l'a fait Sarah. Bien joué.
Mais je connaissais quand même quelques. J'ai vu quand même Deep Purple, je connais un peu de musique, mais le métal, c'est moins mon truc.
Ce matin, on est avec une Sarah Rock'n'roll, je vous l'ai tout de suite, c'est Metal Sarah. Bonjour Julien Beneteau.
Bonjour Georges.
Je t'imagine pas du tout au Hellfest, toi.
Non.
Il était plutôt Long John, tu sais, où ils font du cheval sous la tour Eiffel.
Ce matin, j'ai vu des images justement du Hellfest et effectivement, je me suis dit non, c'est pas pour moi.
Ouais, mais Sarah, non, t'as vu une photo de Sarah.
Lui, il vient de Loire-Atlantique, c'est la terre du Hellfest. C'est même sur le maillot du FC Nantes maintenant. Bonjour Jérôme Pinault.
Bonjour Georges. C'est chez nous, mais Sarah aussi, hein, de Loire-Atlantique. Je te le rappelle quand même.
Ouais. Je t'imagine bien comme ça là, avec ta main.
Ouais, bon, ça fait
40 ans maintenant que j'habite à côté de Clisson et chaque année depuis que je suis à peu près adulte, on me dit tu veux pas venir? Ça me tente pas.
Ça vaut le coup.
Pourtant j'ai des shorts à clous, tout ça. Non, l'univers n'est pas le mien.
Bon courage à tous les organisateurs de festival. D'ailleurs, on sait que c'est compliqué cette semaine avec la chaleur, tout ça. Il y a des événements qui sont annulés. Il y a la fête de la musique.
Ici, hydrate.
C'est ça. Enfin là, ce genre d'hydratation, c'est avec modération, mais l'hydratation avec l'eau, sans modération, s'il vous plaît, ces prochains jours, il faut bien faire attention à vous toutes et tous.
Ça passe.
Ton petit soda, ça passe, mais c'est pas bon forcément pour la santé. Jusqu'à midi, au programme de vos grandes gueules du sport. À 10h sur le ring, le top 14, il semblait vulnérable pour une fois. Et les Toulousains ont écrasé le Racing 92-71 à 17 hier en demi-finale avec un grand Dupont. Douter de Toulouse et de Dupont était-il une erreur? Vous votez sur le compte X des GG du sport. Ce soir, Montpellier, Stade Français à 21h05 sur RMC. À 10h30, punchline de Tadej Pogacar qui nous dit avoir beaucoup souffert cette semaine en écrasant la première étape du Tour de Suisse. Il est parti à plus de 70 km de l'arrivée et a tué tout suspense sur l'épreuve. Est-ce que Pogacar en fait pas un peu trop quand même quand il gagne comme ça? On est à 2 semaines du départ du Tour de France. Sur le buzzer, Cristiano Ronaldo pointé du doigt après son premier match insipide conclu par un nul face au Congo. Son statut de titulaire commence à être mis en cause dans les débats depuis. Est-ce qu'on peut traiter une légende comme un joueur ordinaire? Joan Neves, son coéquipier, s'y est un peu risqué. Ça c'est compliqué pour lui. Le zapping, le j'y crois pas. On va parler des sœurs Williams, de Mbappé et le vestiaire. Est-ce qu'on peut faire abstraction de la vie privée pendant une compétition alors que la séquence est un peu compliquée, on va dire, pour Tadej Pogacar notamment et Lionel Messi, mais il continue à rouler et à jouer. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG et remportez votre enceinte portable Mino X de Lexon. C'est une enceinte Bluetooth qui est flottante en plus. C'est idéal pour tes premiers plongeons de la saison, Christophe. Pour remporter votre enceinte portable Lexon, appelez le 32 16 touche 4 ou envoyez sport au 7 32 16. 16. Les GG d'abord, 9h12. Cette Coupe du Monde à 48, vous l'achetez ou pas?
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Du Cap-Vert pour le premier match de son histoire en Coupe du Monde. 0-0 face aux favoris espagnols.
Le triplé de Léo Messi. Ça y est, c'est lui, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il rejoint Miroslav Klose. Léo Messi écrit l'histoire
avec Ronaldo. La frappe de Ronaldo qui passe juste à côté. La voilà, la première frappe.
Mbappé, 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 la frappe.
Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, Kylian Mbappé. La Croatie, l'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du Monde. La victoire 4-2 face à la Croatie.
Un partout, le Portugal, l'un des outsiders de cette Coupe du Monde, est accroché par la République démocratique du Congo.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et oui, on a déjà vécu 32 matchs de cette Coupe du Monde depuis le coup d'envoi de la compétition le 11 juin dernier, avec beaucoup de rencontres en plein milieu de la nuit. Vous avez tout vécu sur RMC, la radio officielle du Mondial, et sur l'application 100% Coupe du Monde. Tiens, bah, je vous donne le résultat de la nuit. Le Brésil a gagné 3-0 face à Haïti. Le Maroc s'est imposé face à l'Écosse 1-0. Les États-Unis qualifiés en 16e de finale après leur victoire 2-0 face à l'Australie à Seattle. Et le Paraguay a battu la Turquie 1-0. On va en parler dans un instant de ce match d'ailleurs. La Turquie a été éliminée de la compétition comme Haïti, les amis. Donc, on a eu le premier match des Bleus cette semaine avec un gros score d'audience, avec plus de 14 millions de téléspectateurs sur M6. Et c'est donc, c'est vrai, là, notre premier mondial à 48, l'heure de dresser un premier état des lieux, les GG. Je vous pose cette question très simple. Et on compte sur vous au 32-16 pour participer au débat parce qu'on a envie de vous entendre. Est-ce que cette Coupe du Monde vous emballe ou pas? Sarah, t'es emballée?
Non.
Jérôme Pinault?
Oui.
Christophe Cessieux?
Pas plus que ça.
Julien Benneteau?
Ouais, pareil, non, pas encore, mais c'est rien de surprenant pour l'instant.
Rien de surprenant par rapport à ce que tu disais, notamment la semaine dernière. C'était pas forcément très emballé par la formule. On vous attend également sur WhatsApp au 06 12 424 424. Tiens, j'ai un message de Hal déjà qui me dit: cette Coupe du Monde n'est pas emballante du tout. Les matchs sont pour la plupart d'un niveau très très moyen. Les pauses fraîcheurs, c'est une horreur absolue. Le foot ne se joue pas en carton. Ça revient beaucoup dans les messages. Christophe, pourquoi t'es pas plus que ça emballé par cette Coupe du Monde pour l'instant?
Bah, parce que j'ai du mal à rentrer dans les matchs. Évidemment, j'ai suivi le France-Sénégal et pendant 45 minutes, eh bien, je suis rentré dans la Coupe du Monde, mais ça a duré que 45 minutes.
La deuxième mi-temps.
Exactement, la deuxième mi-temps, j'ai eu du mal un peu à rentrer dans la première, ainsi que les joueurs de l'équipe de France. Alors évidemment, dans des phases de poule comme ça, on est surtout axé sur son équipe nationale et c'est après qu'on va s'emballer pour d'autres matchs contre les grandes formations vont s'affronter. Mais là, entre les matchs qui ont lieu à 3h du matin, tous les matchs intéressants ont lieu hyper tard. Ça a été le cas de Brésil-Maroc, ça a été le cas d'Argentine-Algérie que je voulais voir et que t'es le seul à avoir vu parce que tu t'es levé à 3h du mat mais pour bosser.
Quel match.
Les autres rencontres, franchement, m'ont pas laissé un souvenir impérissable et je vais vous faire une confession, j'en ai pas regardé des masses. J'ai vu des extraits. Le lendemain, je voyais les résumés. Mais
les résumés de une minute, d'ailleurs.
Je suis pas encore dans le truc. Pour moi, là, c'est la récréation avant d'entrer dans la salle de classe.
Mais par rapport à d'autres Coupes du Monde, par rapport à d'autres Coupes du Monde, t'as l'impression que t'accroches un peu moins? Mais c'est un truc français.
Encore un peu moins, parce que les autres Coupes du Monde, tu avais quand même l'incertitude que certains grands pays pouvaient passer à la trapinette. Or là, bon, on va voir ce qui se passe pour l'Espagne. Le Portugal qui fait match nul au premier match. On va voir leur deuxième match. Mais ils peuvent se faire peut-être quelques inquiétudes pour le troisième. Mais bon, très peu de grandes nations vont tomber à l'issue de cette phase de groupe. La vraie Coupe du Monde commencera en 16e de finale. Ouais, et c'est l'avantage, c'est qu'il y a un tour supplémentaire de match à la vie à la mort. Et c'est ça qu'on a.
C'est vraiment
pas se cacher la vérité. Ouais. En Ligue des Champions, c'est la même chose.
Ouais, voilà.
Dans toutes les compétitions. Là, et ben voilà, Infantino, il a fait tourner la machine à cash d'entrée. Il s'est gavé.
Il a cassé un peu ta première phase. Il s'est surtout assuré une sacrée réélection.
Oui, parce qu'on rappelle à la FIFA, un pays égale un vote.
Voilà. Donc, c'est vrai que plus on met de pays, plus ça permet
de faire de la politique.
Moi, j'ai vraiment l'impression que cette Coupe du Monde, c'est un peu l'école des fans, parce que tout le monde se réjouit, tout le monde a gagné.
J'avais noté l'expression.
Mais tout le monde a gagné. J'ai entendu un débat sur notre antenne qui, le sujet, c'est est-ce que le grand gagnant, c'est l'Afrique? Bah oui, et puis la réponse était bah oui, parce qu'en fait il y a plein de pays africains qui n'auraient jamais joué une Coupe du Monde, et grâce à cette Coupe du Monde à 48, ils se trouvent à jouer une Coupe du Monde.
Mais ils sont pas mais ridicules, hein.
Oui, non, mais d'accord, mais bien sûr. Mais c'est pas question qualifiée
dans les...
C'est pas la question d'être...
L'Afrique du Sud n'a pas attendu de 48 pays pour être...
C'est pas la question du niveau, c'est la question de dire que, ok, on fait rentrer plein de monde dans cette Coupe du Monde, mais il y en a qui doivent pas bien dormir, les Italiens. Sérieux? Non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est totalement disparate par rapport
mais
au continent.
Mais en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est au-delà de l'Afrique, mais même les qualifications géographiques, même les qualifications de la zone Europe, ou de temps en temps, il y avait un vrai enjeu. Aujourd'hui, nous, notre poule, où on était, où c'est les deux ou les trois premiers qui sont qualifiés, les meilleurs troisièmes passent en barrage.
Là,
à part l'Italie qui a fait n'importe quoi, t'as aucune chance d'être éliminé.
De pas être qualifié en Coupe du Monde
et ensuite au premier tour.
Bah, regardez, la Turquie a été éliminée.
Ils sont sûrs d'être qualifiés pour la Coupe du Monde.
Il y a un paquet d'équipes qui sont pas là.
C'est les deux premiers de chaque poule, plus les 8 meilleurs troisièmes. Tu gagnes un match, tu mets 3 buts, t'es qualifié.
Cette nuit.
En fait, c'est l'école des fans.
Pas assez d'enjeux sportifs pour t'emballer. Jérôme, t'es emballé?
Non, ouais, moi je suis pas d'accord avec vous. Alors, déjà, je pense d'abord que cette Coupe du Monde, elle est mal née et qu'avec tout ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde et notamment avec le pays qui organise, c'est un peu comme une soirée que t'as pas envie d'y aller, donc quand tu vas tu fais la gueule et ça se passe mal, c'est comme
mais Jérôme, aujourd'hui, à 48 pays,
mais moi ça me gêne pas, moi je kiffe les... le foot, j'adore voir le Curaçao jouer, la Côte d'Ivoire jouer, Haïti jouer,
ce sera toujours des Sarah, mal nés, il faudra aujourd'hui plusieurs pays pour les organiser,
oui,
un seul ne pourra pas assurer autant de matchs.
Ils feront comme ils font là, t'inquiète pas, là à la fin de cette Coupe du Monde là ils vont faire de l'oseille, ils vont être capables d'en organiser 14.
Prochaine Coupe du Monde, c'est Maroc, Uruguay, Paraguay, Argentine, Espagne, Portugal, Maroc.
Hein. Ouais, voilà, non, oui. N'importe
donc,
quoi.
Jérôme. Et après, on fait le calcul du bilan carbone des événements sportifs en disant où l'avion.
Vous avez le bilan carbone de l'avion d'Infantino, c'est
que lui-même.
Catastrophe.
Je signale quand même qu'on parle. Est-ce qu'on peut laisser Jérôme kiffer sa Coupe du Monde? Non, mais Jérôme, pourquoi t'es en
train? Non, mais moi, je kiffe parce que j'aime le foot, parce qu'il y a des matchs tous les jours. Alors, les horaires sont pas simples. Je suis pas d'accord avec toi, Christos, qu'on a vu des très beaux matchs. L'Angleterre a joué à 22h. Ça va, on est couché. C'est le plus beau match, Angleterre-Croatie, c'est le plus beau match de début de cette Coupe du Monde. Moi, je me suis levé évidemment pour voir, enfin, pas couché pour voir le Brésil. On a vu les Pays-Bas être accrochés par le Japon à 20-21h, donc c'est un match sympa. Le Japon qui joue très bien au football. Il y a beaucoup de nations. L'Espagne n'a pas fait un match de ouf. Tu vois des matchs, on peut les appeler en bois, mais au moins ça te permet de voir des équipes que tu vois pas. On se rappelle juste que toute l'année, moi, je regarde la Ligue 1. Donc ça va, les matchs en bois, je connais, c'est le niveau est à peu près correct sur la Ligue 1.
T'es pas obligé de regarder que la Ligue 1.
Ah, c'est mon championnat, donc j'aime regarder la Ligue 1.
Et attends, si on sort juste, il regarde la Ligue 1 et il regarde Nantes.
Et
bientôt la Ligue 2.
Voilà.
Et donc, si on sort
Curaçao, c'est à peu près pareil.
Match nul. Non, mais en plus, il y a des buts. Moi, je trouve que. Alors, la moyenne de buts marqués cette année, alors évidemment, il y a plus d'équipes, il y a plus de matchs, mais on est sur 2,7, 2,8 buts par match. C'est à peu près la même moyenne qu'au Qatar et que celle d'avant.
Ouais.
À peu près. C'est des matchs ouverts. On pouvait s'attendre à des matchs en bois où ça ferme. Bah, à part les grandes équipes qui arrivent pas à déverrouiller des équipes qui jouent bloc bas. Bah ouais, mais quand tu t'appelles la République du Congo, tu vas pas jouer full gas devant.
Le
Portugal doit trouver les solutions. Ah ouais, voilà.
Bennett.
Alors, tous les arguments.
Emballé?
Je suis pas emballé parce que pour l'instant, pour moi, une compétition, l'intérêt sportif doit primer. Et sur ce premier tour, il n'y a pas d'intérêt sportif, où il est très faible. Et tous les arguments de Jérôme, dans toutes les autres Coupes du Monde qui se sont jouées à 32 équipes, on avait des pays exotiques qui se qualifiaient une fois de temps en temps. On avait des super beaux matchs au premier tour. Et surtout,
il y avait une tension
parce que tu fais un match nul et tu dois te qualifier. C'est ce qui nous arrivait en 2002, à la Trapinette, parce qu'on a perdu contre le Sénégal. Mais en 2006, on fait finale. Mais on joue la Suisse et la Corée
dans les trucs, et on doit gagner obligatoirement le Togo, et on est comme ça, sinon on se qualifie
mais
pas.
Mais tu vas être comme
et
ça, pareil.
Mais on va être comme ça.
Mais pas pour la France, parce que la France, si elle fait. Mais par contre, les équipes. Mais même, Julien, d'accord, mais sauf qu'une fois que le premier tour est passé, selon la place où tu vas trouver, attention, 16e de finale.
C'est ça.
Donc la première partie est importante.
Les 16e de finale.
Exactement. Ce qui va être super, et même mon fils, j'en ai parlé avec lui.
Les gars, il n'y a pas 100 000 conversations en même temps, s'il vous plaît. On est tous ensemble à la radio. Bennett.
Je lui ai dit, tiens, tu regardes, etc. Il me dit, ça va être super quand il va y avoir tous les 16e de finale qui vont sortir, où tu vas avoir un tableau.
Mais oui.
Et où tu sais.
Ça va être magnifique.
Qui va pouvoir jouer contre qui, etc. Tu es dans le tableau de qui, etc. Et ça, ça va être génial.
Est-ce que franchement, vous en êtes convaincu? Moi, j'en suis pas sûr. Parce que là, on va avoir des 16e de finale ultra déséquilibrés également.
Il va y avoir des gros chocs.
Le grand problème de cette Coupe du Monde, c'est l'invention des meilleurs troisièmes.
Ah, mais bien sûr.
Meilleurs troisièmes, comme on l'a eu sur l'Euro. C'est-à-dire qu'on a l'impression. Souvenez-vous du premier Euro avec des meilleurs troisièmes. C'était l'Euro 2016 en France. Jusqu'à la demi-finale France-Allemagne. Au Vélodrome, est-ce qu'on a vraiment vibré avant? Il y avait des matchs face à l'Irlande, je crois.
L'Irlande du Nord.
Si on prend un exemple,
quand tu rajoutes des matchs, tu enlèves de l'intérêt sportif, ta compétition
est faux.
Mais parce que
pour l'Espagne, il y a des belles histoires. Ok, Curaçao, Haïti et compagnie, on est content de les voir, c'est génial, fabuleux. Mais à côté de ça, c'est une Coupe du Monde. Tu dois jouer sur des billards. Ils jouent sur des stades de football américains qui ont des gazons synthétiques sur lesquels ils posent une dalle en béton et ils mettent du gazon. C'est pourri. Et on va voir le nom. Il peut y avoir beaucoup de blessures à cause de ça.
Ouais, ouais.
On parle même pas de l'Iran qui doit repartir, qui ne peut pas rester dans le même pays ou quoi que ce soit pour préparer le match. Infantino, on en a parlé, c'est un scandale.
Les arbitres qui n'ont pas le droit de rentrer sur le territoire.
Non, mais les mecs, il ne fallait pas regarder la Coupe du Monde au Qatar alors à ce moment-là. Non, si on parle d'Infantino, de ces pays, de l'Iran. Déjà, on est allé faire une Coupe du Monde au Qatar. Fallait pas la regarder. Si on part de ce principe-là, c'est pour ça que je dis, si on n'a pas envie que ce soit bien, c'est pas bien.
Je regarderai la finale, je crois.
Super.
Et pour en revenir sur le côté sportif, là, les trois premiers matchs. Par exemple, on prend le cas de l'Espagne. L'Espagne, si elle finit deuxième de son groupe, tu sais qui elle peut rencontrer en 16e de finale?
L'Argentine. Ouais, mais attention, Jérôme. Franchement, sur ça, sur les grosses équipes qui peuvent se croiser dès les 16e de finale, il n'y en a pas non plus 50 000, hein. À part ce groupe-là qui se croise,
le faux pas de l'Espagne dès le premier match.
Tu l'as fait aussi.
Donc ça change quoi en fait? On voit plus de matchs, il y a quand même du suspense. En fait, ça permet à d'autres nations de jouer au football.
On va s'y intéresser à partir du moment où c'est des matchs couperés, mais avant en fait, ça embouteille tout avec des matchs en bois. En fait,
mais j'ai pas vu de match en bois pour l'instant. À part le 7-1 de l'Allemagne, il y a 2-3 matchs.
À part distribuer des bons points en disant à une nation, tiens, tu vas aller à la Coupe du Monde et récupérer un peu d'argent. En fait, on est en train juste de découper le gâteau et en donner un peu plus aux petites nation pour qu'elle développe le football, mais sur le plan sportif, ça n'a que peu d'intérêt. Et puis alors sur le plan économique et sur le plan environnemental, c'est une catastrophe.
Dans votre sport, les copains, à Roland, il n'y a que des joueurs qui méritent de faire Roland qui sont invités.
Non,
mais c'est ça.
La conséquence de cette Coupe du Monde à 48, c'est quoi? C'est que je reviens encore sur mes matchs de qualification. Où, pour se qualifier pour la Coupe du Monde, il faut un cataclysme pour pas y aller. Qu'est-ce que ça crée? Des matchs où il y a beaucoup plus de matchs. Et les audiences, je parle pas de la Coupe du Monde. Les audiences de l'équipe de France de foot, quand ils jouent le mardi soir ou le mercredi soir un match de qualification de la Coupe du Monde ou de l'Euro.
L'audience a chuté. Bon, après, il y a aussi les modes de consommation
Et à côté de ça, le 15 de France, quand ils jouent au mois de novembre, ils font 10 millions. Donc, ils enlèvent de l'intérêt, ils nous dégoûtent du football. En mettant des matchs. Arrêtez. On veut des matchs avec un intérêt. Et ça veut pas dire que c'est réservé à 8 pays ou à 10 pays. On était à 32, c'était génial. Et des poules de 4, c'était hyper lisible. Il y avait des matchs tous les jours. C'était fantastique, les Coupes du Monde où il y avait, sur les premiers jours, il y avait les matchs
Le seul truc positif, je pense, c'est que ça implique les populations des pays concernés. Et je pense que depuis une semaine, c'est la fête dans des pays qui n'ont jamais vu de Coupe du Monde. Tu vois, et on a vu l'engouement que ça a pris en France.
Évidemment, c'est un prisme français.
Et je pense qu'au Qatar, cette semaine, Cayman, au Curaçao, au Cap-Vert. Eh bien, tous les pays est en émoi parce que la Coupe du Monde a bien voulu d'eux. Et donc, ça, c'est quand même le côté positif.
Et dans
c'est
ces, sûr que et dans ces
ils veulent
pays qui n'ont pas l'habitude de le faire.
Ils veulent
oui,
monter, 64. Non, mais on s'en sort plus.
64, les qualifs, par contre, il ne faut plus les faire. Il faut reposer les joueurs.
Non mais après le truc c'est qu'il y a des qualifications de la Coupe du Monde aussi hein. Bah, la Coupe du Monde c'est censé être l'élite.
Bah, donc, bah voilà, bah,
est-ce
voilà.
que c'est vraiment une bonne chose.
Il bah, y a plus des qualifs. Et Infantino qui dit après, bah, 64 équipes
pour en revenir sur le qualifié.
Mais qu'il aille
qui a jamais ça sur WhatsApp. C'est vrai que les premiers tours au tennis en Grand Chelem ou la Coupe du Monde de rugby sont géniaux aussi.
Non mais c'est la même chose. Le rugby est parti sur la même dérive à force de vouloir faire rentrer des équipes qui ne sont pas du tout au niveau. Et au rugby le nombre d'équipes qui sont compétitives pour espérer gagner la Coupe du Monde est encore plus réduit qu'en foot. Donc ça, je suis d'accord avec lui. C'est pourri
le
aussi.
Rugby, oui.
Tiens, on revient dans un instant. On va parler avec vous. Est-ce que cette Coupe du Monde vous emballe ou pas? Prenez votre place au 32-16 et participez au débat avec vos GG. On revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport, on est avec Christophe Cessu, avec Jérôme Pinault, avec Sarah Pitkowski, avec Julien Beneteau. Tiens, je vous préviens que demain dans vos kiosques, la tribune dimanche, avec un nouveau format et un cahier sport réalisé par les équipes d'RMC, avec nos 23 envoyés spéciaux aux États-Unis pour le mondial et les analyses de Samuel Umtiti, notre champion du monde 2018. Évidemment, on se pose la question, est-ce que vous êtes emballé par cette Coupe du Monde? Évidemment, tiens, je vous rappelle également que vous l'avez entendu jeudi après-midi sur RMC, la prime de match a été gagnée dans le Super Moscato Show. C'est Anthony qui a remporté 67 500 euros. Dès lundi, on remet en jeu une nouvelle prime. Quel montant atteindra la nouvelle? Je vous rappelle qu'on ajoute 500 euros par but marqué à chaque rencontre. Donc restez bien à l'écoute et il va y avoir un top inscription dans l'émission. Vous aurez 10 minutes pour envoyer but au 7-32-16. Est-ce que cette Coupe du Monde vous emballe, les amis? Alors j'ai plein de messages hein, sur WhatsApp. Frédéric qui, comme toi Christophe, dit mais pensez à la joie de tous les petits pays qui ont la joie de faire une Coupe du Monde, la fierté des Haïtiens notamment. Boris qui me dit 32 équipes, c'était le nombre parfait. Et il n'y avait pas d'histoire de meilleur troisième dans la première phrase. Et ça laissait la place aussi aux équipes surprises. Tiens, on a Nicolas qui nous appelle de Corrèze dans les grandes gueules du sport. Salut Nicolas.
Bonjour à tous.
Bon, bonjour Nicolas. Tu nous racontes un peu, t'es emballé, toi, tu veilles pendant les nuits, là, tu regardes les Écosse-Haïti, toutes ces rencontres par exemple, ou t'es pas encore totalement dans le train de ce mondial?
Alors, depuis le début de la Coupe du Monde, j'essaie de regarder tous les matchs. Hier, j'ai fait une petite sieste en fin d'après-midi pour regarder Maroc. Mais en fait, j'ai craqué, je me suis endormi, je ne me suis pas réveillé. Et voilà, c'est l'accumulation des matchs. Mais sinon, non, après, les horaires, ça change. Il faut juste s'adapter en fonction du boulot, tout ça. Mais bon, c'est intéressant. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'origine chilienne.
Ouais.
Le Chili a fini bon dernier de la zone AMSUD.
Pas qualifié.
Et, si ils avaient réussi à se qualifier en gagnant deux ou trois matchs de plus durant la compétition, ça m'aurait déplu fortement en fait qu'ils y aillent, parce que voir son équipe de cœur prendre des raclées à la Coupe du Monde, je vois pas en quoi c'est excitant. Moi personnellement, tant mieux qu'ils y soient pas. Je préfère voir une équipe prête à aller à la Coupe du Monde pour jouer et pour aller chercher quelque chose que pour faire figure. Après, voir beaucoup de matchs comme j'ai pu voir depuis la Coupe du Monde où c'est beaucoup les mêmes systèmes de jeu avec des équipes qui jouent avec en bloc très bas. Franchement, des fois c'est très ennuyant. Il y a eu beaucoup de matchs où des fois je piquais pendant le match. Et en fait, non, ça me plaît pas.
Mais moi, est-ce que c'est pas quand même l'histoire des Coupes du Monde, Nicolas? C'est-à-dire qu'on voit quand même souvent les petites équipes. Enfin, moi, je me souviens de Trinidad et Tobago, je sais
la
pas,
Corée,
même l'Iran à une époque, voilà, jouer le bus devant les grosses nations.
Non, mais oui, mais là, c'est beaucoup d'équipes. Là, il y en a beaucoup plus.
Parce qu'il y a plus de matchs, t'as raison.
Oui,
c'est vrai.
Oui,
c'est un sentiment.
Là, par exemple, le dernier match qui m'a énormément déçu, il y a eu l'Espagne, ça m'a déçu. L'Uruguay derrière, quand j'ai vu l'Uruguay, j'ai vu le même match, j'ai fait mais non, mais c'est pas possible. En fait, moi je vais même plus loin. Il y avait un coach à l'époque qui entraînait Schalke, je ne me rappelle plus de son nom. Il avait donné une idée et j'ai trouvé ça intéressant. C'était qu'en cas de 0-0, il y a 0 point pour les deux équipes.
Ah oui.
Ça pouvait en gros inciter les équipes à l'attaquer.
Ah ben là c'est attention, il y a coach Courbis qui réclamait également la victoire à 2 points.
Je rappelle, mais ça à l'époque avec Courbis on avait discuté.
Non mais c'est vrai, merci Nicolas, c'est vrai que est-ce qu'on n'a pas l'impression de voir beaucoup de matchs assez
l'Espagne qui galère au premier match. N'oublions pas que la dernière Coupe du Monde, l'Argentine, ils ont perdu leur premier match contre l'Arabie Saoudite et ils ont gagné la Coupe du Monde derrière. Donc ça, ça peut arriver. C'est pas le nombre de petites. Il prend l'exemple du Chili qui a fini dernier de la zone AMSUD.
La zone AMSUD, où je rappelle, maintenant, le Brésil. 6 équipes se qualifient sur 10. Hein, voilà, et il y a le 7ème en barrage. C'est-à-dire que les qualifs ne servent à rien, pratiquement.
Voilà. C'est ce que je viens de dire il y a 5 minutes. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on enlève de l'intérêt sportif à beaucoup
c'est
de matchs.
C'est plus une compétition élitiste, en fait.
Non. Et,
non, mais, c'est l'école des fans. C'est-à-dire que tout le monde va gagner.
Des petites équipes ou des petites nations. Il y en a toujours eu de qualifiés dans les Coupes du Monde.
Oui, mais elles se sont qualifiées sur le terrain.
Exactement.
Elles se sont pas, donc, elles, c'est pas vraie... avec un règlement.
Exactement.
En fait.
Donc,
enfin, l'Irak n'a pas volé sa qualif non plus. Hein. Ils sont allés faire un barrage face à la Bolivie.
Bien sûr.
Moi, je trouve que vous êtes dur avec ces petites nations, parce que depuis le début de la compétition, il y a évidemment 2-3 équipes qui pètent comme des pop-corns devant des grosses nations, mais sinon.
Pas tellement.
Oui. Ça tient la route. C'est pas ridicule.
Les Coupes du Monde avec des équipes qui sont placées d'un certain
nombre. Mais c'est ce qu'on appelle les qualifications.
Oui, mais alors c'est plus des. Oui, mais il y a plus de qualification parce que tu qualifies tout le monde.
Oui, mais justement, mais parce qu'en fait, on a changé les dispositifs alors qu'avant on avait des qualifs normales entre guillemets avec une équipe avec des le plus haut niveau qui arrivait le gratin.
Nicolas, le Chili, c'est un bon exemple. Le Chili, a, par le passé, était performant dans les coupes du monde. Donc évidemment que ces pays-là, ils ont pas envie d'y aller pour se faire taper dessus. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui découvrent la Coupe du Monde et d'y participer, ça leur suffit.
Oui, mais après l'idée, c'est aussi dans le discours de la FIFA, c'est ça aide un peu tout le monde à élever le niveau finalement, à se développer. Oui. Non, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est en jouant tous les 4 ans? Est-ce que c'est en prenant une tôle face à l'Allemagne?
Je ne crois pas du tout à ça. Où quand les grandes instances de n'importe quel sport disent on va organiser telle compétition dans tel pays parce que ça va faire développer le sport dans ce pays-là, la Coupe du Monde de rugby va avoir lieu aux États-Unis. Honnêtement, si dans 10, 12 ans, 15 ans, les États-Unis sont champions du monde de rugby, je veux bien manger un rat. Quand on donne les Jeux Olympiques à tel pays parce que ça va faire développer les droits.
Mais on s'en souvient à Rio.
Voilà. Il y a un contre-exemple, c'est la Coupe du Monde 98, les gars. C'est en 98, la Coupe du Monde. Dans les petits clubs, grâce à la Coupe du Monde, ça sert à
rien. Jérôme, la culture du foot,
l'installation des terrains synthétiques sur beaucoup de stades en France, c'est quand même droit. C'est quand même
surtout 65 millions d'habitants avec des infrastructures.
Exactement.
Mais il n'y a pas que des mauvais exemples.
Avec une culture du foot, on a accueilli la Ryder Cup ici, on pensait que ça allait développer le golf. Exactement. Ça l'a pas plus développé parce que tu t'inventes pas une culture. Dans un pays avec un sport.
Ça touche pas tout le monde.
J'ai un message de Philippe sur
WhatsApp. Ça touche tout le monde, c'est bon.
Philippe sur WhatsApp me dit j'ai du mal à me passionner pour l'instant. Par contre, je me demande si cette formule ne va pas avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que les grosses équipes vont pas être très mobilisées au début et il risque d'y avoir des surprises et des éliminations au premier tour. Regardez l'Espagne et les Pays-Bas. Attention à l'excès de confiance dans cette formule. Ça peut être intéressant.
Ils sont mobilisés parce qu'ils savent le tableau. Ils le savent très bien.
J'ai un autre message. Si je vous écoute, on aurait fait une Coupe du Monde à 16 et un rugby à 6. Au tennis, il y a une compétition à 8 et au cyclisme avec un athlète. Ah non, c'est juste qu'il faut
l'élite. Il y avait des équilibres qui avaient été parfaitement trouvés dans les années précédentes. Mais on veut toujours plus, pour engranger toujours plus de droits télé et de retombées. Et donc voilà. Non, je dis l'Espagne et le Portugal, s'ils sont en danger, d'accord. L'Espagne joue face à l'Arabie Saoudite et le Portugal contre l'Ouzbékistan au prochain match.
Si tu perds
sur ces deux matchs, effectivement, t'as rien à faire à la
Coupe du Monde. L'Espagne, ils jouent qui, tu dis ?
L'Arabie Saoudite.
Tiens, imagine, l'Espagne, ils jouent quand même le Cap Vert et l'Arabie Saoudite en poule. Enfin, c'est.
Bah attention, l'Arabie Saoudite quand même.
Bah non, mais bien sûr, j'ai vu un mec qui était super fort, il peut taper la Coupe du Monde. Ouais. Attention, oui, tu peux faire attention à tout le monde.
Ils viennent de faire match nul contre le Cap Vert. L'Arabie Saoudite, c'est pas plus faible que le Cap Vert.
Juste Romain au 32-16, je vous appelle des Bouches-du-Rhône. Salut Romain.
Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous?
Bah écoute, nous pas mal. Toi, ça va? Tu regardes tous les matchs de la Coupe du Monde? T'es emballé?
Non, alors tous les matchs, non, parce qu'avec le décalage horaire, c'est pas évident. Mais bien évidemment qu'on essaye d'au moins suivre la France et les principaux matchs de la compétition. Après, qu'est-ce qui vous emballe généralement dans le sport? Parce que j'ai l'impression que quand vous dites est-ce que cette Coupe du Monde vous emballe, on parle de tout le monde. Moi, personnellement, ce qui m'emballe, c'est mon pays. Et c'est si mon pays gagne.
Mais oui, je suis d'accord avec toi en plus.
Elle peut être belle autant qu'elle veut. Si on se fait taper comme en 2002, elle était magnifique, la Coupe du Monde. Hein. La Corée du Sud, la demi-finale, l'Italie, ce que vous voulez.
Le Brésil.
Pour des pitres. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les performances de mon pays. Et on a tendance, mais c'est français, ça je ne nous en veux pas parce qu'on est comme ça, mais on a tendance à toujours minimiser, a toujours au début critiqué. Et on met un temps fou à se passionner, mais par contre, après, la ferveur et l'emballement qu'on y met, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est pareil dans tous les sports, dans toutes les compétitions.
Bien sûr, Romain, on la connaît l'histoire. Hein. Si on est champion du monde au bout, on va dire, est-ce que c'était pas la plus belle Coupe du monde de l'histoire?
Et je vais même vous dire, même
plus de pays.
On fait des débats à chaque fois avec un peu des thèmes qui sont communs. On parlait du premier match. Moi, le premier, il m'a énervé, Kiki. En deuxième mi-temps, il nous a forcé à l'aimer avec la deuxième mi-temps qu'il a fait. Pourtant, il m'emballe pas en ce moment, Kylian Mbappé. Mais il fait une deuxième mi-temps de fou. Ousmane Dembélé, l'équipe a titré le ballon d'or des ORT. On a un gars qui est ballon d'or, qui casse tout en club parce qu'il a pas fait un bon match en équipe de France. On est en train de lui tomber dessus.
Oh, donc, pas, de manière générale,
on est un peu comme ça.
Tu veux dire, on valorise pas ce qu'on a. Mais alors, tu sais, Romain, alors moi, j'entends ce que tu veux dire et je pense que t'as raison. C'est vrai qu'on est exigeant, mais il faut regarder également dans les autres pays. Hein. Je peux dire qu'en Espagne ils sont pareils, en Argentine ils sont pareils, en Angleterre ils sont pareils. Donc il y a une exigence, surtout quand on arrive dans une Coupe du Monde, on a envie tout de suite de voir les meilleurs performer comme on les espère. Merci Romain de nous avoir appelé au 32-16. Est-ce que vous êtes emballé par cette Coupe du Monde? Bah oui, j'espère, parce que tous les matchs sont sur RMC et sur notre radio digital 100% Coupe du Monde. Allez les amis, dans un instant, tiens, je rappelle le programme de la soirée. Pays-Bas, Suède, 19h, c'est pas mal ça. Allemagne, Suède, Allemagne, Côte d'Ivoire, 22h.
Ouais,
Équateur, Curaçao, 2h.
Allemagne, Côte d'Ivoire, le résultat de ce match va déterminer notre tableau.
Ah ouais,
bien sûr. Mais on termine deuxième de notre groupe.
Et on va jouer le premier.
On joue en 16e de finale, l'un des deux. On termine premier de notre groupe. En huitième de finale, on joue un des deux.
Ça y est, il me l'a vendu cette Coupe du Monde. Il est là, Gianni Benetto. Tout de suite, le zapping.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Tiens, sur le ring dans un instant. Est-ce que douter de Toulouse et Dupont était une erreur? Les Toulousains ont gagné 71-17 hier face au Racing 92 et vont se battre pour un quatrième Brennus la semaine prochaine. On vous attend au 32-16 pour participer. Je vous rappelle que, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en envoyant but au 7-32-16, but au 7-32-16 pour essayer de remporter la nouvelle prime de match qui est remise en jeu à partir de lundi. Je vous rappelle que la première prime de 67 500 € a été remportée. Quel montant atteindra la nouvelle? Inscrivez-vous et restez bien à l'écoute de RMC. Tout de suite, le zapping.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
Tiens les amis, si vous avez suivi, parce que vous regardez tous les matchs de la Coupe du Monde, je m'en fous pas. Paraguay-Turquie est entré dans l'histoire du football cette nuit. Jérôme Pinault.
Ah non, je m'en fous pas.
Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Ah bah c'est
mais alors royalement.
C'est une science du suspense, hein. Sarah.
Bah je sais pas bien.
Bennett.
Pourquoi il s'est rentré dans l'histoire du football?
Eh bah, ben
c'est ça. Tu regardes pas la Coupe du Monde à 48, tu sais pas ce qui s'est passé.
Alors, je vous explique.
On parle encore de cagolerie, on parle pas de football.
On parle de nouveauté.
Attendez les gars,
c'est les règles qui changent. Le Paraguayen Miguel Almirón est devenu le premier joueur expulsé pour avoir parlé en couvrant sa bouche de la main lors d'une altercation avec un adversaire turc. C'est une nouvelle règle qui a été introduite lors de ce mondial pour lutter contre les insultes racistes. Moment d'histoire, donc, dans le temps additionnel de la première période, quand l'arbitre du Salvador, Ivan Barton, a dit ceci au stade après avoir visionné les images.
After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
Cover his mouth. La décision, c'est carton rouge.
C'est carton rouge direct.
Pour Almirón. Donc, t'en penses quoi?
Il lui a pas dit qu'est-ce qu'on mange après le match, hein, a priori. Donc,
non, mais d'accord.
Moi, je pense c'est très bien. C'est pas ce qu'il lui a dit.
C'est très bien parce que évidemment que c'est une insulte ou c'est quelque chose qui est pas très très sympa. Sinon, il aurait pas été expulsé.
Sinon, tu ne pas cacher la bouche pour lui dire je trouve ça super ce que tu as fait.
On prend un petit café après.
Non mais.
Donc, je pense qu'évidemment, et de toute façon, si nous on le voit pas.
Est-ce que le rouge?
Bien sûr.
Mais pourquoi tu mets pas un jaune?
Alors là, c'est le règlement, Sarah.
Ce que je veux dire, quand tu mets un tacle ultra violent.
Tu parles d'un Argentin sur un Algérien pas si longtemps.
Oui.
Alors là, pour le coup, il y a deux poids deux mesures. Je suis d'accord.
Tu vois,
et la question qu'on se pose,
qu'est-ce qui est le plus négatif pour le match?
Les deux, mon capitaine.
Ouais,
les deux, mon capitaine. Après, c'est sûr que la réaction est forte.
Un entraîneur parle comme ça à son joueur.
Ça dépend ce qu'il lui dit, Julien. Il va
on ne sait pas ce qu'il lui dit là. Tu sais pas ce qu'il lui a dit.
Non, non, non. Il met la main dans la bouche.
On ne sait pas ce qu'il lui a dit, en fait.
C'est juste le fait de courir sa bouche.
Oui, c'est juste.
Ça veut dire que deux coéquipiers
s'ils se parlent comme ça, ils peuvent se faire.
Et en fait, le problème, c'est où ça commence, où ça s'arrête.
Bah, c'est complètement nul.
Donc, oui, mais en fait, le truc, c'est que les joueurs savaient très bien, en allant à la Coupe du Monde, que ce serait comme ça. Donc, moi, je vous raconte la scène. Hein. Ça se passe juste à la fin de la première mi-temps. Il y a une petite altercation. Et à un moment donné, on voit effectivement Almiron parler à un Turc en se cachant la bouche comme ça. Hein, je vous le fais. Et en fait, le Turc, qui reçoit la phrase
de Paranoïen,
il va voir immédiatement l'arbitre en disant il a parlé en se cachant la bouche, il a parlé en se cachant la bouche. Enfin, ou il a dit ceci, je sais pas.
Bah, il a sûrement dit ce qu'il lui avait dit quand même.
Non, mais en fait, tout ce qui est fait pour endiguer le racisme est une bonne chose. Là, le problème, c'est que. En fait, est-ce que ça va pas être l'ouverture de tout et n'importe quoi?
Il y a quelque chose. Si ça peut enlever le fait qu'ils parlent tous comme ça, et ça va, on lit ça, sur les lèvres. C'est une bonne idée, c'est pour empêcher ça.
C'est aussi pour empêcher que les mecs s'insultent et que devant le monde entier, le lendemain, ça, l'arbitre l'a pas vu et le lendemain, tout le monde débriefe sauf l'arbitre du match. C'est aussi pour ça. On parlait tout à l'heure du carton. Non mis à Messi, c'est pareil. Il y a pas eu de carton. Trois heures après, selon Georges Quirino, l'Algérie c'est. Mais en fait, c'est le monde qui se plaint après. Et quand tu revois l'image, bah évidemment. Et l'arbitre passe pour un con, donc il vaut mieux. Bah, c'est vire de suite.
C'était pas aussi évident, je pense, le carton rouge. Ouais. Sur Messi. Allez, on zappe, les amis. Je m'en fous pas. J-2 avant France-Irak, les dernières infos de l'équipe de France. Christophe.
Je vais les écouter.
Sarah.
Bah, moi aussi.
Jérôme.
Parce qu'ils ont mangé.
Je m'en fous pas, évidemment.
Ah, ouais. Bennett, ils ont une soirée libre et tout, c'est important.
Ouais, ils ensemble. Est-ce que va avoir de la collation?
Les Bleus se sont entraînés à 8 jours.
Constipés, enfin,
c'est hier à Bosnia, quoi. Et s'envolent dimanche pour Philadelphie. Florent Germain est au plus près de l'équipe de France pour RMC. Salut, Flo.
Salut, Georges. Salut, les GG. Salut à tous.
Flo, on se dirige vers une reconduction de l'équipe qui a affronté le Sénégal.
Oui, il y a une tendance qui se dégage depuis l'entraînement d'hier. Donc, trois joueurs pourraient faire leur apparition dans le 11 de départ contre l'Irak. Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola. Si on détaille un peu, Lucas Digne au poste de latéral gauche, il est en concurrence avec Théo Hernandez. Il n'y a pas de hiérarchie claire à ce poste. Donc, c'est une manière de raviver cette concurrence donc entre les deux hommes. Au milieu de terrain, Manu Koné a toujours la cote auprès du sélectionneur qui aime son volume de jeu, son impact physique. Il casse des lignes, Manu Koné. En plus, il est en forme, donc sa présence pourrait permettre à Aurélien Tchouaméni de souffler. Enfin, l'autre nouveauté, qui n'est pas une grande surprise, ça devrait venir de Bradley Barcola, qui a marqué un but, qui a fait une entrée très convaincante contre le Sénégal, et donc il devrait remplacer Désiré Doué avec sa vitesse et sa fraîcheur, qui peuvent faire du bien à l'équipe de France. La compo probable pour lundi contre l'Irak, Maignan dans le but, Koundé, Upamecano, Saliba et Digne en défense, Manu Koné et Rabiot au milieu de terrain et le quatuor offensif avec Olise en numéro 10, donc dans le cœur du jeu, Dembélé à droite a priori, Barcola à gauche on l'a dit, et donc Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque française. Pas de vrai bouleversement, trois changements à prévoir, même si c'est à confirmer, et surtout un Deschamps qui veut absolument finir premier de ce groupe pour en termes de logistique notamment continuer de jouer sur la côte Est avec un 16e de finale à New York, un 8e à Philadelphie, un quart de finale à Boston. Voilà le programme. On n'en est pas là, mais en tout cas, c'est le souhait du staff de l'équipe de France.
Merci Flo. Bon, Barcola, a priori titulaire, c'est une bonne chose. Il a été décisif, il a marqué. Hein. Là, c'est à peine son premier ballon touché.
Barcola, Doué, c'est pareil.
C'est vrai, j'ai l'impression que ce France-Irak vous fait pas très peur.
Bah, c'est un peu le match. En fait, c'est un peu le troisième match. C'est normalement, ça devrait être le match des coiffeurs, le match face à l'Irak. Si on avait joué la Norvège en deuxième.
Pour moi, c'est pas Barcola Doué qui va faire la différence pour la suite de la compétition. Par contre, Digne, Théo Hernandez, on va voir comment est Lucas Digne. Oui, parce que devant, on est quand même très très fort. Et les latéraux, on est plus à la peine.
Tiens, je finis juste par une dernière information, les gars. Vous savez que Corentin Moutet a reçu une grosse amende en Angleterre.
Super.
Une amende digne d'un tennisman.
35 000 euros pour avoir prononcé le juron.
Dans le même sac, hein.
35 000 euros pour avoir prononcé le juron. Fuck à 7 reprises lors d'une interview d'après match au Queens.
Ça fait 5 000 balles le fuck. Hein.
Ouais, ça se fait pas. Ça se fait pas en Angleterre.
Ça se fait pas nulle part.
Oui, c'est vrai que même en France, en fait, s'il avait dit ça.
Même dans le studio Roland Courbis, il dit pas fuck.
Ouais, c'est vrai. Mais pourtant, tu viens de le faire.
Fuck.
Allez, 5 000 euros. Ça va me payer mes vacances. Merci beaucoup, les gars.
Non, mais c'est vrai que c'est un mot qui a pas la même connotation dans les pays anglophones. Nous, on dit comme ça, on sait pas trop ce que ça veut dire.
Ils le disent tout le temps.
Ronaldo Gara.
Oui.
Ouais.
Ronaldo Gara.
Ouais.
Bah ok, bah très bien. Tu connais bien Ronaldo Gara.
Mais Moutet, c'est un. provocateur, mais ouais, d'une force.
Là, il va peut-être éviter, là.
Il s'arrête là-dessus, comme ça.
Hein?
Le zapping,
il y a plein de choses.
Ouais, d'accord, ok.
Ben, il y a plein d'autres choses.
Ben, ouais, c'est super.
Les meilleures choses.
Il y a plein de choses dans le programme. Plein de choses qui m'ont intéressé.
Et là, il y a un interdit.
Allez, on regarde dans l'instant.
Il y a du paraguay, du machin. Non, mais franchement.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.